quartier.
Je disais, mais pas 50, je parle du coup, mais c'est vrai qu'elle n'est pas 50 000.
Niché au cœur de l'Écusson, Candol, vous diront ses habitants, est un village dans la ville. Petit quartier hybride où se côtoient la nuit montpelliéraine, la cathédrale Saint-Pierre, le rectorat, la fac de droit, les bars, le conservatoire et des souvenirs. Souvenirs d'un temps où ses habitants vibraient encore au son des guitares gitanes et où la pétanque se jouait à l'ombre d'un micocoulier. Se pourrait-il que ce village soit devenu, à l'image de la statue qui orne sa place, un paradis perdu ?
L'identité du quartier Candol, il a une identité bien particulière. À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, « Ah, Candol, j'ai vécu à Candol, je suis né à Candol, j'ai fait mes études à Candol », tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier qui, je crois, a une âme villageoise. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est que quand on se croise entre Candoliens, on se dit bonjour, tout le monde se dit bonjour, sauf les étudiants qui passent. Et on dit, tu montes en ville pour aller à la place de la Comédie. Et des fois, si on se croise place de la Comédie, oh, on s'ouvre les bras et on s'embrasse comme si on était de la même famille. Donc il y a vraiment une âme dans ce quartier qui existe, qui se perd un peu, et qu'on voudrait bien ranimer aussi.
Sylvie Raberkel, présidente et fondatrice du comité de quartier Les Amoureux de Candol.
La place qui s'appelle la place Candol, au milieu de la place, il y a une statue qui s'appelle le Paradis perdu qui représente un couple d'amoureux. Et c'est d'où l'appellation Les Amoureux de Candol.
Le quartier de Candol, justement, la circonscription géographique.
Oui, elle est floue. Jusqu'à présent, c'était plus ou moins la rue de l'Université, le boulevard Pasteur, le boulevard machin qui remonte, Henri IV.
Henri IV,
oui. Et puis on redescend sous les voies du palais, sous la Canourgue, et on rejoint la rue de l'Université en passant par la rue Aigrefeuille. C'est un quartier institutionnel, avec beaucoup de pâtés de maisons qui sont des institutions, des administrations.
Anne Trébeau, membre du cabinet du recteur, spécialiste de l'histoire du rectorat de Montpellier.
Je vais vous raconter aussi, expliquer pourquoi aussi ça s'appelle rue de l'Université, oui. Alors qu'il y a une université. Alors, dans la maison qui faisait l'angle, c'était une école supérieure.
Donc à l'angle de rue de l'Université et rue de l'École de Mage.
Voilà. C'était une école supérieure qu'on appelait Scola Major, de lettres et d'art. Scola Major, ça donnait École Mage. Et donc rue de l'École Mage, c'est pour ça.
Donc l'école, là, c'était à quelle période à peu près ?
C'était au Moyen-Âge.
D'accord, Moyen-Âge.
14e siècle, ouais. à peu près. Et en fait, l'enseignement se passait dans le jardin la plupart du temps, un peu à la grecque, les gens discutaient dans le jardin. Donc ils étaient une douzaine. Surtout, vous voyez, sur toute la ville de Montpellier, voir ce qu'on appelle aujourd'hui l'Académie de Montpellier, 12. Puis les guerres de religion, mais pendant les guerres, l'école s'arrête, les études s'arrêtent. Et le bâtiment a été abandonné. Si les études et les écoles dégringolent, il y a un truc qui va très bien, c'est les hôpitaux. Et un en particulier qui était en plein essor, parce que c'était le seul à avoir accueilli pendant les guerres de religion à la fois les protestants et les catholiques.
Et il s'appelait comment cet hôpital ?
Il s'appelait l'hôpital Saint-Éloi. Et donc la ville a gardé la maison là et y a mis l'hôpital en achetant la maison d'à côté et puis la maison d'à côté. Et pendant deux siècles, elle a acheté toutes les maisons les unes à côté des autres. Et là, on a fermé les rues qui arrivaient face aux îlots pour ne plus faire qu'un mur. Donc ça a fait un seul bâtiment, alors que normalement il y avait trois pâtés de maison. Ces travaux ont eu lieu vers 1815 à peu près.
D'accord.
Il y avait même un quatrième bâtiment qui était lié à l'hôpital, c'était la maternité. Mm-hmm. Et cette maternité était une maison qui était sur la place Candol. Cette maternité-là, malgré tous les travaux d'agrandissement, d'amélioration, etc., elle est toujours restée très vétuste, donc il a été décidé de l'abattre. C'est pour ça qu'il y a une place à la place Candol.
Donc la place Candol, elle date du 19e.
Voilà. Et l'hôpital continue à prendre de l'expansion, puis à un moment donné, il était trop petit. Alors ça s'est fait d'autant plus facilement que, Napoléon avait supprimer l'université de Montpellier, il était question de remettre une université à Montpellier. Mmh. Donc il fallait trouver un lieu intéressant.
D'accord, donc
d'où la rue de l'université.
Très bien.
Voilà. Mmh. Ça, c'était en 1899, je crois. Si, bah, voilà, regardez. 1890, c'est ça. Ville de Montpellier, restaurée à la fin du XVIIIe siècle. Ancien hôpital Saint-Éloi de 1599 à 1890. Siège de l'université de 1890 à 1966.
Patrick Bungener, chercheur au Conservatoire et Jardin Botanique de Genève.
Candolle, ce n'est pas juste quelqu'un qui a fait des inventaires floristiques, qui a fait un herbier, c'est aussi quelqu'un, il a vraiment réfléchi à la botanique. Il est très intéressant d'une part, déjà quand on regarde cette vie de nomade, hein, il est à Genève, il a toute une carrière à Paris, dans ce grand Paris des Lumières scientifiques, pour avoir une série d'échecs, l'échec de à l'Académie des sciences comme membre, pour finir donc en province, à Montpellier, où il peut vraiment, là, justement, se concentrer sur sa grande œuvre, c'est-à-dire la réflexion en profondeur de la botanique. C'est son œuvre, ce qui va écrire la théorie élémentaire de la botanique. Donc, de 1808 à 1816, il sera directeur à Montpellier. En fait, il arrive là, donc, à la mort donc, d'Auguste Broussonnet, hein, qui est l'ancien directeur. Donc, effectivement, vous l'avez relevé, le Jardin botanique de Montpellier, c'est le plus ancien jardin botanique de France, fondé par Henri IV. Et, en fait, il va vraiment faire fructifier aussi les échanges. Il va peu à peu donc s'adonner à cette vie de directeur. Et c'est très intéressant de lire d'ailleurs dans sa correspondance. Il se plaint au début d'être placé en province. Il déplore les méridionaux, ces paresseux méridionaux. Et en fait, il n'est pas du tout content. Mais en fait, d'un côté, c'est la chance de sa vie parce qu'à Montpellier, il va reprendre le jardin des plantes pour d'ailleurs l'agrandir avec le jardin d'Itières. Hein. Il agrandit le jardin des plantes. Donc c'est vraiment bénéficiaire pour lui jusqu'à que la chute de Napoléon précipite son retour en fait à Genève. Augustin Pyramus devient recteur en 1815. Il est élu. Il est d'abord refusé à l'élection parce qu'il est protestant pour être finalement élu recteur de l'Université de Montpellier. Mmh. Et il est du coup considéré comme suppôt de Napoléon. Et c'est pour ça que sa chute, Napoléon perd à Waterloo. Et du coup, il y a vraiment une épuration au niveau régime qui est assez... D'accord. Il le dit dans, mmh, dans ses mémoires. Il y a vraiment une violence dans la ville et il n'a plus de sécurité. Il rentre en ayant négocié la fondation du Jardin botanique à Genève et une place de professeur d'histoire naturelle à Genève. Donc c'est son retour dans sa ville natale.
Si vous reculez vraiment...
Là, on regarde la devanture du rectorat. Donc
voilà, le tympan central, le triangle. Et puis les deux petits tympans ronds de, oui, chaque côté, ils ont des pierres en relief, vous voyez.
Oui.
Bah, il ne reste plus qu'à les sculpter.
Ça n'a jamais été fait.
Et alors après, vous voyez, dessous, peint droit... Sciences, lettres, vous voyez, entre les deux étages. Oui. Ben ça, c'est ce qui reste de l'époque, donc la université. Mm-hmm. Alors, on va rentrer maintenant. Oui.
Bon, et donc, le rectorat, il devient rectorat quand exactement?
Ben, après le départ des étudiants, en 1969.
Là, on est dans la cour centrale, c'est voilà, ça?
Première cour, il y a donc trois cours, puisqu'il y avait trois pâtés de maison.
Oui.
C'est la cour Pierre Soulages.
Ah oui.
La deuxième cour, c'est la cour Rabelais. Et la troisième cour, c'est la cour Marie de Montpellier. Cette cour, telle qu'on la voit avec ses arcades, elle est magnifique, oui, hein, c'est une cour absolument superbe. Elle date donc à peu près de 1815. Et le tilleul date à peu près de cette époque-là. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez par exemple, il reste quelque chose, quelques trucs de l'époque de l'hôpital. Là, vous voyez une espèce de potence en fer. Ben, c'était un puits. Et dans le rectorat, il y a quatre puits, encore aujourd'hui. Et on dit que le tilleul se porte si bien parce qu'il y aurait... En fait, il y a une nappe phréatique, quoi. C'est la même que celle qui est au Mikvé, oui, donc une eau très pure et qui se retrouve aussi sous le rectorat. Et on raconte qu'on pourrait se promener sous le rectorat en barque. Vous voyez, cette coquille-là, elle rappelle évidemment le passage des pèlerins qui allaient à Compostelle. Mmh. Elle montrait bien que c'était un hôpital ouvert aux pèlerins et qu'on est vraiment sur le passage. Alors après, il y a quelques petits trucs rigolos, par exemple la cloche. Vous voyez, un joli campanile, ah oui, avec trois cloches et une horloge. Alors, pour remonter l'horloge, il faut aller dans le bureau qui est en dessous. Il y a une trappe, une échelle qui descend, et on monte vraiment raide, jusqu'à l'horloge, qu'on remonte avec des poids qu'il faut remonter, et qui descendent petit à petit jusqu'à là. Ça dure à peu près un mois.
Et elle fonctionne là ou pas ?
Elle fonctionne très bien, oui.
Elle fonctionne.
Il est bientôt 11h, ça va sonner.
Ça date de quand ?
C'était avant la Révolution française.
Ah ben là, voilà.
Moi, dans le quartier, je fais vivre le quartier pour une seule chose, c'est qu'on garde cette ambiance de familiale. Et moi, ce que je fais, je récupère beaucoup de choses que je répare et que je donne après aux étudiants. Je donne à la fac de droit, je mets une annonce, je donne un frigo, une machine à laver, tout, que je répare.
La faculté de droit a connu une éclipse à partir de la Révolution. Pendant un siècle, elle a disparu de la circulation.
Philippe Pétel, doyen de la faculté de droit de Montpellier.
Donc ce qu'il y avait avant, j'ai bien du mal à vous en parler. En revanche, je peux vous parler de ce qu'est la fac de droit depuis qu'elle est réapparue à Montpellier, c'était en 1880. Et alors, elle s'est installée à l'époque, alors pas immédiatement, mais je crois vers 1890, dans le bâtiment qui est aujourd'hui le bâtiment du rectorat. Et beaucoup de gens, si vous voulez, la génération de mes parents, s'en rappellent. En particulier, les gens se rappellent du tilleul, parce que c'est quand le tilleul fleurissait que les étudiants commençaient à travailler leurs examens. Alors ensuite, dans les années 60, évidemment, parce que les effectifs ont explosé, la fac de lettres est partie, la fac de sciences est partie, et la faculté de droit est sortie du palais d'université, a traversé la rue et s'est installée ici. Alors ici, c'était un couvent, autrefois, vous voyez, c'est un vieux couvent du XVIIe siècle. Là, vous avez le cloître qui a été rénové quelques années. Et puis alors, les effectifs ont continué à exploser d'une génération à l'autre. Et les économistes sont partis à Richter et les juristes sont restés dans le centre-ville. Alors ça a été de haute lutte à l'époque, parce que c'était Georges Frêche qui voulait absolument nous envoyer là-bas sur les bords du Lez. Il avait un projet urbanistique qui se justifiait. Mais d'un autre côté, c'était un peu excessif, parce que si nous avions tous envoyé là-bas, le quartier dont vous observez la vie aujourd'hui ne serait pas ce qu'il était. Parce que vous avez 6 à 7 000 étudiants qui sont là aujourd'hui, qui n'y seraient pas. Oui. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on aurait eu à la place. Pour les étudiants, c'était extraordinaire. Alors c'est merveilleux pour les étudiants et c'est très bon pour l'environnement. Parce que les étudiants, c'est ce qui fait vivre une ville.
Moi, je suis graphiste de formation. Donc moi, je connais le métier de l'imprimerie depuis bien longtemps.
Le stylographe, c'est un peu l'emblème de la l'université. Vous savez depuis combien de temps elle existe
Plus de 20 ans déjà. Franchement, le terme que j'emploie, je dis, c'est le fast-food de l'imprimerie. Parce qu'il y a tout le temps du monde. Mais c'est non-stop, de 9h du matin à 18h30. C'est tout le temps. En fait, comme il y a la fac de droit pas loin, on a les étudiants en fac de droit. Et on va les voir jusqu'à ce qu'ils soient avocats, en fait. Donc même ils nous racontent, on sent leur stress quand ils préparent leur mémoire ou leur thèse. Voilà, on les aide, quoi, on les soutient, on a toujours une phrase sympathique, allez, vous allez réussir. Ou... Après, c'est une rue sympa, agréable, passante, ouais, aussi ça me plaît.
C'est un quartier agréable à vivre, un quartier très, très mixé, c'est très... la mixité sociale, je crois que c'est l'intérêt principal du quartier. Il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a toutes les classes moyennes, il y a des gens très populaires, il y a tout ça. La proximité de la fac fait que toutes les boutiques ont disparu, ont été remplacées par des snacks. Voilà. Mais c'est un quartier très agréable justement par sa mixité sociale.
Alors, c'était vraiment un quartier populaire autrefois. Un quartier populaire, il y avait beaucoup de rues qui n'étaient pas agréables à fréquenter même, hein, très honnêtement, et il s'est bien amélioré parce qu'il y a eu manifestement un programme de réhabilitation, et ça c'est tout à fait nouveau, hein. Moi quand j'étais étudiant, c'était quand même bien délabré ici.
Oui. Comment ça se passait justement la mixité entre la population des étudiants en droit et les gitans? C'est assez rigolo comme...
Oui, c'est vrai. Ça se passait pas mal. Enfin, c'était quand même... je crois que ce serait une légende de dire que les deux communautés cohabitaient. Oui. Hein. En réalité, elles étaient juxtaposées. Mm-hmm. Et les étudiants remontaient en réalité. Ils allaient, la vie étudiante était beaucoup plus haut dans le centre-ville. D'accord. Il n'y avait pas autant de vie étudiante dans le quartier Candolle, mm-hmm. parce qu'il n'y avait pas autant de commerce.
Oui. J'imagine que la place Candolle ne devait pas ressembler à la même chose.
Pas,
oui.
du tout, pas du tout. Il y avait une vie étudiante, mais je n'ai pas le souvenir qu'on faisait de vieux os dans le quartier. Hein. On remontait plutôt du côté de la préfecture.
Ouais, ça va, le 23, Ice Tea et Café. Ça va faire 4 ans et demi que j'habite là, un peu plus, tu vois. J'ai débarqué en avril 2013. J'étais grenoblois et je suis venu ici en fait juste pour passer une soirée. Et il se trouve que j'ai passé ma première soirée sur la place Candolle. Ah, c'était la folie, il y avait des petits concerts partout, c'était début mars, c'était super bien, il y avait une super ambiance, beaucoup de gens pouvaient se poser là et tout, du coup, chose qu'on faisait pas forcément à Grenoble. Et du coup, pour arriver la première fois sur une place et que tout plein de gens arrivaient et se regrouper ici sur la même place pour faire la fête, c'est pour ça que moi je suis tombé amoureux de Cornol, parce que vraiment, ici c'est vraiment comme si on était dans un petit village. Alors qu'on est en pleine ville et qu'on commence à travailler une ville qui commence à grandir beaucoup et tout, et que cet esprit-là est toujours là, quoi. Les habitués, les gens, les petits villes du quartier, tout le monde prend soin de l'un des
autres. Justement, donc par rapport au bar, donc on est dans le bar Le Triskel, la population qui vient dans le bar, c'est des étudiants essentiellement, ou alors c'est une population de quartier?
Un peu de tout. Enfin, il y a beaucoup de gens du quartier, bah, forcément. Et après, il y a énormément d'étudiants du conservatoire ou alors des facs aux alentours qui viennent assez régulièrement et tout. Et puis là, maintenant, ça s'est calmé un peu. Ouais, mais bon, après, il y a toujours des gens qui se bougent le cul pour faire vivre l'endroit et pour que ça soit bien. Donc ça, l'esprit reste un peu toujours le même.
Il a plusieurs identités qu'il n'avait pas autrefois, notamment avec ce caractère de quartier commerçant. Autrefois, il n'y avait de commerce que le long de la rue de l'université. Et encore, c'était des commerces assez spécialisés. C'était des bouquineries, c'était des librairies. Voilà.
Reste des commerces qui ont traversé un petit peu...
Le Café Jules a toujours existé.
D'accord.
Quand j'étais étudiant, c'était une institution, Café Jules. On allait, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de cafette. Donc... dans le Café Jules, on avait du mal à rentrer, hein. Il était vraiment plein à exploser. Alors oui, Jules, c'est une très vieille institution. Mm-hmm. Pour ma génération, ça jouait un grand rôle, et c'était très ancien. Alors c'était vraiment le vieux bistrot d'autrefois, hein, avec un zinc. Là, rien n'avait changé depuis les années 40 ou 50, hein, à mon avis. Ça, c'était vraiment une institution, le Café Jules.
Il existe depuis quand, le Café Jules?
On a dit quoi, 1936?
1836, toujours rue de l'université.
Donc. Forcément, au Café Jules, après, avec les étudiants, même les autres clients qui peuvent revenir. On a par exemple un client qui était en fac de droit il y a 80, à peu près 80 ans, et qui revient régulièrement prendre son petit café dans son ancien QG, comme il l'appelle.
D'accord, donc c'était et justement, donc, c'est quoi l'image du Café Jules alors pour les anciens du quartier?
C'était le quartier général des étudiants, dans le droit, la plupart du temps, et on a pas mal de clients de rectorat aussi qui viennent assez régulièrement.
Et vous, Carlos, donc Carlos, c'est vous?
Voilà,
c'est vous. Vous êtes là depuis quand?
Depuis 4 ans.
4 ans. Et donc vous le saviez qu'il y avait cette histoire-là du Café Jules quand vous avez repris?
Oui, je savais. Je savais même que Jules Guedt avait écrit un livre ici en 1841, je crois.
D'accord.
C'est Les droits de l'homme. Il avait écrit ce livre-là ici à Stavet.
Et l'identité du Café Jules, vous la définiriez comment? À travers un peu le temps, comme ça?
À travers le temps, je ne pourrais pas vraiment la déterminer. Enfin, moi, j'ai passé de recul. Là, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que le Café Jules, c'est comme si on était à la maison. C'est la devise du Café Jules, comme à la maison.
Alors, la librairie des étudiants, oui, très très ancienne. Et elle a un lien très étroit avec la faculté de droit. Oui, ça c'est une vieille institution. Je crains bien que ça ne soit les seuls, hein, parce qu'il y avait une boulangerie qui était très connue, qui était tenue par une vieille dame qu'on appelait Maminova. Et il y avait une épicerie en face de la porte du 39 rue de l'université, qui est un de nos accès. Je crois que cette épicerie a disparu et a dû être remplacée par un bar. Il y avait bouquiniste. Il y avait un bouquiniste, comment il s'appelait, je l'ai bien connu. La boutique existe toujours, mais elle n'est jamais ouverte. Je crois que son propriétaire travaille surtout par Internet maintenant. Et puis alors, il y avait aussi un commerce, ah oui, qui a totalement disparu, mais qui était vraiment un commerce spécifique de la rue de l'université. C'était chez Monsieur Groff. Le père Groff avait un commerce spécialisé dans la vente de képis, de décorations militaires et de costumes d'audience pour les avocats et les professeurs, d'accord, les professeurs d'université. Je me souviens d'ailleurs que, oui, j'ai un souvenir particulier du père Groff, parce que dans les années, début des années 90, voilà que certains de mes collègues plus âgés avaient découvert que nous avions le droit de porter le camail. Le camail étant une petite cape bordée d'hermine qui se met par-dessus la robe. Les professeurs de droit l'avaient oublié. Mais effectivement, sur les vieux tableaux qu'on voit par exemple à la salle des actes, on voit que nos collègues d'autrefois avaient un camail. Et un certain nombre de collègues ont été séduits par cette idée de perfectionner leur costume, ce qui évidemment ravissait le brave père Groff. Il le vendait 2000 francs à l'époque, bon, c'était une somme. Mais enfin, je me souviens qu'à l'époque, le père Groff avait été vraiment ravi de cette trouvaille. Ça avait boosté son chiffre d'affaires pendant quelques mois.
Je me demandais depuis combien de temps vous étiez la boutique, elle était ici.
Ça fait une quarantaine d'années.
Et donc, vous avez grandi dans ce quartier alors ?
Non, mais non. Mes parents travaillaient là, donc voilà. Moi, la petite anecdote, c'était Marcel, l'épicier.
Alors, c'était qui, Marcel ?
Mais l'épicier, c'était un monsieur qui était là avec sa sœur. Tout le monde croyait que c'était sa femme, il était plus bas, à droite.
Ok.
Et il est personnage mythique de la rue. Hein. Je veux dire, même chez Gibert, vous trouvez une carte postale où il y a sa devanture. Donc la devanture en bois, peinte, où il est assis sur sa chaise dehors, à l'ancienne. On a l'impression d'être encore 50 ans plus tôt, quoi. Il avait son béret, il était gentil. Enfin, moi, je sais que voilà, j'allais lui chercher des bonbons, des petites choses.
Et il y avait d'autres commerces
un peu... Et il vivait dans son arrière-boutique. C'était le boui-boui à l'ancienne, quoi. C'était crasseux à souhait, mais il était gentil, voilà. Bah, voilà, c'était... ça faisait partie de la vie de quartier.
Le commerce de proximité nécessaire et utile pour vivre dans un quartier, évidemment, mais ça, ce n'est pas spécifique à Candolle, a disparu pour se concentrer en périphérie. Ça nuit à l'âme du village et au lien que l'on peut créer entre les gens. Ça nuit.
Que je dis a changé, puisque nous, on s'amusait avec tous les gitans, jouer à la guitare, tout ça. Non, c'était très, très bien. Maintenant, les quartiers, les gens, les habitants, il y a beaucoup de turnover. Donc, on se connaît beaucoup moins. C'est moins sympathique. Et puis, il y a un gros souci, c'est que les bars ferment l'été à 2h du matin et que les tramways s'arrêtent à 1h du matin. Et les gens sont coincés. Tous les gens sont coincés. Bon, ils sont un peu méchés, c'est normal, c'est un jeune, ils font la fête. Mais bon, s'ils sont coincés, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Voilà. Et le problème, c'est que nous, on subit toutes les frasques des jeunes qui restent toute la nuit jusqu'à 5h30 du matin pour qu'ils partent.
Alors, j'ai essayé d'aller discuter. J'y allais avec un espèce de sentiment un peu maternel, discuter avec les uns les autres, mais c'était peine perdue, j'étais tous bourrés, donc c'est pas dans ces circonstances-là que vous allez essayer d'en faire un temps de raison à des jeunes qui viennent de Saint-Gély-du-Fesque, des enfants de famille qui ont des villas avec des jardins, et là-bas ça dort.
Oui.
Alors, nous on est pour le quartier festif, mais les façades de maisons qui bordent les rues et les places ne sont pas des décors.
Ah oui, ça j'ai vécu, et ça j'en ai beaucoup souffert. Ouais. Moi j'ai appelé la police par exemple pour dire il est 4h du matin et mon lit tremble sous l'effet des percussions. Il y a 200 personnes sur la place. Même les gitans à la fin ils voulaient porter plainte. Hein. Ils venaient me voir parce que moi je m'appelle Gabriel. Les gitans ils m'ont toujours appelé Marcel comme mon père. Ils me disaient mais Marcel, même nous on n'en peut plus. On va appeler la police, tu te rends compte à cause du bruit. Je disais bah oui, là c'est vrai que c'est le summum, ça veut dire. Et voilà, mais qu'il y ait du monde le soir sur la place, que ça reste un lieu convivial, que les gens se retrouvent.
Il y avait la pétanque et tout, mais ça c'est la pétanque, ça n'avait pas trop de bruit, quoi. C'était sympa. Parce que le terrain là il est propice à la pétanque. Maintenant il n'y a que des bars.
Ouais.
Là où nous sommes avant c'était une boucherie.
D'accord.
D'accord.
Donc là la place du Triskel.
Voilà, okay. Là c'était le bon lait.
Ouais.
C'était le truc des enseignes d'époque. Hein. Voilà. Et puis il n'y a plus personne. Si vous voulez, si vous regardez là, il n'y a plus même à l'université, c'est que des métiers de la bouche. Pour les étudiants. Voilà. Il y avait 4 boulangeries sur un périmètre de 500 mètres carrés, il n'y en a plus une. Si on veut acheter le pain, il faut faire 1 km. Non, mais c'est impressionnant. Ah oui, mais c'est vrai, il faut remonter à la préfecture, il faut machin. Il y a plus de. Le petit commerce de proximité, il n'y en a plus. Toutes les épiceries, il n'y a pas d'épicerie de nuit. Là, il y avait une épicerie, là où il y a le bar,
oui.
Le Saria, c'était une épicerie. En face aussi, il y avait un boulanger en face là. Alors l'université pareil, il n'y a plus rien. C'est que des commerces, je dirais presque pas inutiles, mais c'est des bars, c'est de la bouffe, quoi. Ouais. C'est que ça. Moi je plains, c'est pour ça que la fréquentation est tout à fait différente, parce que les petits vieux, les gens natifs ici, ils ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de personnes. Ouais. C'est clair. On va dire que tous les gens sont. Les sédentaires, les autochtones sont partis.
Donc je suis arrivée en 88, moi. Et je suis tombée amoureuse du quartier, c'est-à-dire que je venais chercher un simple appartement d'étudiante, puisque j'avais 40 ans que j'étais venue faire ma formation de musicothérapeute, et j'y suis encore, dans cet appartement d'étudiante. Et je suis tombée amoureuse, parce que quand je suis arrivée dans ce quartier, cherchant un appartement, il y avait des gitans partout, ça me plaisait. Il y avait un côté méditerranéen qui me plaisait. Ils étaient là sur le pas de la porte avec des bigoudis sur la tête, avec la guitare plus loin, avec la bouche en incendie qui était ouverte, et les enfants qui se baignaient, c'était très très libertaire comme aspect. Mais ça me plaisait bien. Et puis il y avait aussi des fenêtres, des appartements. On entendait des musiques qui sortaient, mais pas des musiques comme aujourd'hui, électro-techno, machin bidule. Non, c'était quelqu'un qui chantait un air d'opéra, plus loin quelqu'un qui travaillait un morceau de violon. Ça me plaisait.
On accueille 1450 élèves, mais qui sont répartis sur les deux sites essentiels, donc que sont Sainte-Anne, l'origine de Lisbonne, et puis la rue de Candolle.
Patrick Pouget, directeur du Conservatoire de Montpellier.
Moi, lorsque je suis arrivé en 2015, le bâtiment là où on est, à l'archevêché, l'ancien archevêché, n'était pas utilisé. C'est-à-dire que l'archevêché, c'est un bâtiment qui appartient au diocèse et qui est loué par la métropole. Donc il y a eu souvent une utilisation comme ça, un petit peu provisoire. Et lorsque je suis arrivé ici, il y avait le rez-de-chaussée qui était utilisé par le conservatoire pour la danse et l'étage qui n'était pas utilisé. C'est assez rigolo parce que c'était les appartements de l'archevêque et on avait les tapisseries de l'époque, enfin, rien n'avait été changé. Et depuis août 2016, donc l'administration du conservatoire est ici, rue Lallemand. Parce qu'avant, donc, on était à Sainte-Anne, nous on a changé de quartier. C'est un peu rigolo comme répartition. Le conservatoire, ça, ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'il a été créé en 1886. Et c'était à Sainte-Anne. Et donc ensuite, le conservatoire s'est développé, comme tous les conservatoires, dans les années 60-70. Et donc il y a eu l'attribution de l'autre bâtiment qui est devenu l'annexe. Et dans l'annexe, on a fait comme souvent, c'est-à-dire en musique, c'était très hiérarchisé. On avait des instruments plutôt nobles que le violon, toutes les cordes, le piano, etc. Et on a mis en gros les instruments qui faisaient du bruit à Candolle. Et il n'y a pas la même sociologie, c'est-à-dire qu'on a, si on va sur Sainte-Anne, à l'entrée, on va voir des élèves qui viennent faire du violon, de l'érudition, c'est-à-dire de la composition, de l'informatique, etc. Et puis ici, vous allez avoir les trompettistes, les trombonistes, les cornistes, les tubistes, tous ceux qui font des vents essentiellement. Il n'est pas adapté le bâtiment parce qu'en fait déjà il n'y a pas d'accessibilité personne à mobilité réduite. Il faut savoir qu'on n'a pas de studio de danse réellement. Certaines salles effectivement ont une vue imprenable sur la cathédrale, ça c'est magnifique. Hein. C'est vrai que extérieurement c'est assez exceptionnel comme cadre. Voilà. Le problème c'est qu'ensuite les salles ne sont absolument pas standardisées, donc ce qui fait le charme hein, évidemment du bâtiment, mais en même temps des difficultés au quotidien pour transporter les instruments d'une salle à une autre, des problématiques d'insonorisation parce que ça a été fait. Là par exemple, il fait froid aujourd'hui et tout le monde ferme les vitres, mais on est un bâtiment qui n'est pas du tout adapté. Donc les profs laissent les vitres ouvertes, ils jouent de la musique et tout le quartier en profite. Voilà, les voisins, c'est normal que parfois ça soit un peu compliqué. Après, c'est sûr qu'on va perdre en termes de cachet. Et on perdra le côté un peu artisanal de notre fonctionnement.
Moi, ça fait 25 ans. J'habite dans le quartier puisque j'habite sur le lieu de travail.
Ah, vous habitez donc dans le conservatoire?
Dans le bâtiment. Tout le monde se connaît. Et puis quand je suis arrivé ici, moi, c'était l'époque des gitanes. Donc c'était le petit village complet. Moi, les gitans venaient tous les jours ici. Non, ça se passait super bien avec eux.
Ils venaient au conservatoire ou
ils venaient devant la porte. Ouais. On jouait souvent au boules le soir. Après, c'était l'ambiance familiale.
Puis il y a toute la vie du quartier, la place Candolle avec quelques restaurateurs. L'école de théâtre en face, une salle. Donc ça c'est assez rigolo parce que si vous passez dans la rue Lallemand, dans le petit parc qui est là, vous allez entendre des fois des élèves qui déclament des scènes ou qui les répètent. Enfin, je sais pas si on vous a déjà parlé de ça, mais c'est assez cocasse.
D'accord.
Donc ça crée une vie. À côté, il y a un petit bâtiment pour les associations. Donc il y a une association de quartier qui est la fin de quartier, ouais. Pour, donc du coup, voilà, il y a aussi de l'autre côté, on a toutes les facs, donc avec encore un autre public. Après, c'est assez rigolo parce que c'est vrai que ça fonctionne. C'est un quartier au final qui est assez étudiant, même s'il n'y a pas beaucoup de logements étudiants dans le quartier. Ça dépend beaucoup du rythme scolaire, quoi. Enfin du rythme des études.
D'accord.
Par exemple, moi je suis venu travailler pendant les vacances de la Toussaint. La deuxième semaine, l'université était en congé, il n'y avait personne. Quoi. C'est-à-dire que dans la journée, c'était un village déserté, en fait, avec pas de bruit, rien du tout. Mais j'ai habité, moi, rue Gariel, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une rue perpendiculaire à Candol.
Oui.
C'était en 96.
Oui.
95-96. Et c'était assez rigolo parce que à cette époque-là, il y avait eu une vague de cambriolage, enfin des choses comme ça. Et puis le concierge, il m'avait présenté un peu à certaines personnes du quartier pour lui dire, lui, il habite là, il est sympa, surveillé, enfin voilà.
Qu'est-ce qui a changé dans le quartier? Plus du tout la même ambiance. Beaucoup moins tranquille, je dirais, le quartier qu'avant.
Et on a vécu quelques années comme ça avec les Gitans. À partir du moment où les Gitans avaient repéré que vous faisiez partie du quartier, vous étiez protégés. Et ces Gitans qui reviennent régulièrement dans le quartier parce qu'ils y sont restés attachés, ils y sont nés, ils ont grandi, ils reviennent avec beaucoup d'émotions et presque des larmes dans les yeux et ils m'embrassent comme si j'étais leur grand-mère. Puis petit à petit, l'évolution de ce quartier, c'est que ces Gitans, ils sont partis vers la cité Saint-Gély notamment, vers des... Alors, c'est à la fois un phénomène voulu par eux parce qu'ils habitaient des pattes-portes humides, insalubres et sans salle de bain. Et en même temps, il y avait une volonté de certains commerces de les faire partir. Voilà, je le dis parce que je le sais, mais je ne nommerai personne. D'abord, ils ne sont plus là. Et on les a vus disparaître petit à petit. Il y a encore quelques familles qui sont là.
Je suis née ici. Enfin, moi, j'ai grandi avec les Gitans, donc le quartier a vraiment beaucoup changé. Oui. Et là, pour moi, il devient un peu trop bobo, un peu trop chic. On perd le côté populaire. Bon, je trouve que les terrasses ont pris beaucoup de place. J'aimerais qu'on puisse encore s'asseoir sur les bancs publics. Donc moi, j'aime cette place parce qu'elle est très conviviale, elle est très, très populaire.
Être enfant à Candol, alors, il y a 35 ans, c'était comment?
C'était différent de maintenant, puisque moi j'étais fille unique. Quand j'étais petite, mon père disait va jouer sur la place avec les Gitans. Mais quand j'étais petite, ils m'ont bien fait la misère. Et après, le premier bar qui a ouvert, c'est le Roule-ma-poule. Et là, le quartier a changé. C'est devenu, pour le coup, beaucoup plus sympa, puisqu'il y avait cette mixité des Gitans et des autres. Et ça fonctionnait très bien.
Parce qu'à l'époque, c'était une partie Gitan.
Oui. Hein,
partie Gitan. Et après ils ont mis des bornes, vous voyez les bornes,
ouais.
Ils ont mis des bornes, depuis qu'il y a des bornes, tout c'est parti de là, l'autre fibrole, l'autre appel, voilà.
C'était depuis longtemps un quartier gitan justement?
Oui, longtemps. Avant que je suis né, il y avait des quartiers d'époque, c'était pire qu'avant les gitans. Les gens venaient, ils avaient peur de venir ici, c'est comme tirer fibrole.
Ouais.
Par contre c'était un bon quartier avant, après c'est changé, tu vois. On faisait même le feu le soir.
C'est lui qui m'a embêtée quand j'étais petite.
Ah, c'est vous qui piquez le ballon.
C'est pas que ça me manque, je suis tout le temps presque, je check ici, je suis tout le temps là. Parce que les gens, ils croient que j'habite ici, puisque je viens.
D'accord, et pourquoi vous y revenez alors?
Je suis dans ce quartier, je connais du monde, ils me connaissent. Je suis bien dans ce quartier, tout le monde connaît, c'est ça. C'est okay. Pour ça que je viens dans le même quartier.
C'est la maison, quoi. Voilà. Et du coup, là, il n'y a plus aucune famille gitane dans le quartier?
Il y a mon frère,
là. C'est votre frère, là.
Oui, connu ici.
Et puis, le quartier a beaucoup changé parce que quand je suis arrivée, il était gris, sombre. Et que nous, le comité de quartier de Candol, nous avons fait venir cette instance administrative qui s'est installée, il y a un petit bureau rue de l'université, et qui ont distribué des subventions aux propriétaires qui désiraient faire leur ravaler leur façade et réhabiliter les appartements insalubres. Et les appartements sont devenus corrects à habiter. Et les façades sont, il est devenu beaucoup plus lumineux. Alors, à l'origine, d'ailleurs, notre projet, en 98-19, c'était parce que, personnellement, j'en avais assez de voir un quartier extrêmement sale. C'était essentiellement par rapport aux ordures. À l'époque, il n'y avait même pas de containers sous roulettes. On posait les poubelles telles quelles devant. Donc, je me rappelle, le tri sélectif, disais-je en riant à l'époque, se fait par le biais des escaliers et par la force de la gravité. Vous voyez, donc voilà.
C'est pas simplement le quartier qui a changé. En 20 ans, la ville a changé aussi. Et donc, il y a quand même eu la piétinisation qui a fait beaucoup évoluer l'ensemble des critères d'installation des habitants. C'est-à-dire que ne pas pouvoir arriver au bas de chez soi en voiture,
c'est dissuasif.
C'est dissuasif pour un certain nombre de personnes. La piétonnisation a amené aussi des modifications dans l'aspect du quartier, mais aussi son esthétisme. Par exemple, le plan de l'homme était une espèce de carré où il y avait des voitures quand on est arrivé, des voitures qui se garaient les unes derrière les autres. Et donc, c'était comme une forme d'impasse, là.
Et donc, ça créait du lien, parce que les gens
mettaient... Ah, ça créait du lien.
Les gens mettaient leur numéro de téléphone,
les gens, alors, les gens, voilà, il y avait une entente tacite qui était, les gens mettaient leur numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'on gênait toujours quelqu'un qui était derrière, devant soi, etc. Donc, ils se mettaient les numéros de téléphone et ils se déplaçaient quand l'un voulait sortir. Sauf qu'il y avait toujours un qui n'avait pas compris le système, qui venait se garer. Et donc, à 3h du matin, quand il y en avait un qui était coincé, un autre, hop, il klaxonnait. Donc, à 3h du matin, klaxon, engueulade. Donc, le lien, oui, mais enfin, c'était parfois un peu...
Ça a dû changer pas mal de choses pour l'université aussi, j'imagine.
Ah oui, ça beaucoup. En bien, d'ailleurs. Oui, ça a contribué. C'est peut-être ce qui a donné le coup d'accélérateur au développement du quartier. Vous voyez, la rue de l'université, effectivement, ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était auparavant. Mmh. Ça, vous l'avez connue, oui. Donc. Et là, elle est totalement métamorphosée avec ses terrasses de restaurants dans la rue. Évidemment, ça, c'est pas concevable à l'époque où les voitures circulaient. Oui, ça a vraiment été un coup d'accélérateur à la métamorphose du quartier. Je crois que tout le monde s'est très bien adapté, d'ailleurs.
Actuellement, bon, nous travaillons toujours sur la propreté du quartier et notamment l'implantation de toilettes publiques, notamment la poursuite des conteneurs enterrés et puis le revêtement des chaussées qui est délabré. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect qui est aussi l'amélioration du cadre de vie, c'est ce grand projet de végétalisation, micro-fleurissement, jardin partagé que Claude porte en elle.
Le projet, il est assez ambitieux. Parce qu'on aimerait donc renforcer le côté végétal du quartier, le côté village aussi. Il y a des petites rues avec des escaliers, d'essayer d'apporter donc ces éléments végétal. Et donc il a fallu qu'on essaye de mettre des vecteurs en place. Donc le premier, ça serait un parterre végétal dans la rue de la Providence, qui est un grand axe là, quand même, une belle perspective, mais en fait un peu grise. Le deuxième point, c'est d'engager un micro-fleurissement. Et donc le troisième volet, c'est le jardin partagé. Le jardin partagé qui, alors là, est vraiment un lieu de rencontre et commun. On voudrait garder ce cadre, hein, et c'est pour ça qu'on tente vraiment de renforcer cet aspect village, cet aspect végétal, et pour offrir un cadre à l'intérieur de l'Écusson.
C'était Candole, un paradis perdu. Un reportage réalisé par Lucie Le Charbonnier et coproduit par Divergence FM, la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Chica chica para bailar, chica chica para gozar, chica chica para bailar, chica chica para gozar.